Voilà, donc l'occasion pour moi de dire, avant de commencer, toute ma joie de me retrouver parmi vous. Les vacances, c'est bien, mais l'église de la Garenne, c'est mieux. Voilà, et puis vous avez les salutations de la petite église de Rousse, dans les Cévennes. Il y a eu 6 baptêmes pendant l'été, donc on est vraiment reconnaissant Seigneur. Continuons, ceci étant, de prier pour cette église qui en a besoin. Voilà, alors au chapitre 2 de cet épître, l'apôtre a surtout, on s'en souvient, traité des relations que les croyants doivent entretenir entre eux au sein de l'église. Au chapitre 3, donc, nous débutons ce matin, l'apôtre va traiter cette fois-ci des relations que les croyants doivent entretenir avec leurs concitoyens, avec des hommes et des femmes donc qui ne sont pas croyants. Et notamment, l'apôtre va évoquer les relations que les croyants doivent entretenir avec leurs autorités. Et Paul, nous le verrons, d'encourager les croyants de Crète à pratiquer de belles œuvres en faveur de leurs concitoyens, c'est-à-dire de les encourager à aimer leurs concitoyens. Alors, une question se pose à nous tout de suite. Comment aimer tous ceux qui nous entourent? Il n'est déjà pas toujours facile d'aimer nos frères et sœurs en Christ, pourtant au bénéfice de l'œuvre de restauration de notre Dieu. Alors pour des hommes et des femmes sans Dieu, sans cette œuvre de restauration, cela semble difficile. Comment aimer la société? Alors, que les choses soient claires, ici, aimer signifie rechercher le bien des hommes, non pas participer avec eux à leur révolte contre Dieu. Les hommes et les femmes qui nous entourent, finalement, méritent-ils notre amour? Il suffit de lire les journaux, d'allumer la télévision, mais plus simplement de côtoyer les gens pour s'apercevoir assez rapidement qu'ils sont, hélas, assez peu aimables, et certains d'entre eux même franchement détestables. Alors oui, nous ne croisons pas tous les jours des criminels endurcis, heureusement pour nous, mais reconnaissons-le, nous croisons si souvent des hommes et des femmes qui ne recherchent finalement que leur intérêt égoïste, qui font passer systématiquement leur intérêt avant ceux des autres, qui sont finalement incapables de se mettre au service. Ah, celui-là, oui, toujours à blaguer, très sympa. Mais quand il s'agit de rendre service, d'aider, de concéder ne serait-ce qu'un petit sacrifice, il n'y a plus personne. Et nos autorités, ceux qui nous dirigent et qui devraient d'une certaine manière être exemplaires, hein, ils ont le pouvoir, ils ont donc une responsabilité supérieure dans l'exemplarité qu'ils doivent nous donner. Que faut-il en penser ? Alors, quand je suis parti en vacances, ça fait un petit moment, début juillet, je me souviens qu'on parlait cigares payés par le contribuable, on parlait jet privé, cumul de rémunération confortable. Depuis le mois de juillet, d'autres affaires encore certainement ont dû voir le jour, et puis il y a toutes celles que nous ne connaîtrons jamais. C'est à désespérer. La conclusion est sans appel. La société, les hommes en révolte contre Dieu ne sont pas aimables. C'est d'ailleurs la conclusion du psalmiste au chapitre 14. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Comment l'apôtre, dans ce cas, peut-il se permettre de nous demander d'aimer nos concitoyens? C'est au-dessus de nos forces. Il ne peut nous demander une telle chose et pourtant, il le fait. Il le fait dans ce chapitre et dans le même temps nous donne le moyen d'y parvenir. Alors comment s'y prend-il? Pour convaincre les croyants de la nécessité, car il ne s'agit pas de quelque chose de facultatif. Pour convaincre les croyants de la nécessité d'être bons avec leurs concitoyens, de les aimer, l'apôtre leur rappelle leur propre histoire. Il invite les croyants de Crète à jeter par-dessus leur épaule un regard pour se souvenir de ce qu'ils étaient avant de rencontrer le Seigneur et pour contempler la glorieuse miséricorde de Dieu à leur égard. Alors, nous méditerons ce texte en trois parties. Nous verrons dans une première partie la situation des Crétois avant que Dieu ne les rencontre. Nous nous arrêterons ensuite sur l'œuvre de Dieu dans leur vie, pour finir par une troisième partie, par les implications de cette œuvre du Seigneur dans leur relation avec la société. Eh bien voilà, parfait. Merci David. Commençons par notre première partie donc. Avant que Dieu ne vienne les rencontrer, les chrétiens de l'île de Crète vivaient séparés de Dieu avec tout ce que cela implique. Alors relisons le verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. L'apôtre dresse ici un tableau peu flatteur des Crétois avant leur conversion. En réalité, un tableau effrayant, un tableau hideux et désespérant. C'est le genre de tableau qui saisit d'horreur, devant lequel on ne s'attarde pas. Alors, on voit assez mal, c'est le portrait de Dorian Gray, pour ceux qui ont vu l'adaptation cinématographique de l'œuvre d'Oscar Wilde. Donc, c'est un jeune homme dont on a brossé le portrait. Et au fur et à mesure qu'il vit et qu'il s'enfonce dans le péché, eh bien, son portrait devient de plus en plus hideux. Et lui, par contre, reste toujours le même, le portrait de Dorian Gray. Alors sachons que ce n'est pas seulement le tableau des Crétois que l'apôtre brosse ici, c'est aussi le nôtre, avant que le Seigneur ne nous ait rencontrés. C'est un exercice pénible que de porter les yeux vers ce tableau, mais je vous invite à nous y arrêter, à bien le regarder. Car si c'est un exercice difficile, c'est aussi un exercice salutaire. Alors il est à noter que l'apôtre commence avec le « nous ». Il est à noter donc que l'apôtre commence avec le « nous » et par là même déclare sa solidarité avec les Crétois. L'apôtre a pleinement conscience de ce qu'il était avant sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Ce n'est pas de sa part de la fausse modestie. Peut-être se souvient-il, au moment où il écrit ces lignes, de son passé de persécuteur de l'Église. Toujours est-il que par ce « nous » de solidarité, il nous invite à nous souvenir que nous n'étions en rien différents de nos concitoyens avant notre conversion. Et que dans les quelques lignes qui vont suivre, c'est bien de nous dont on parle et non des autres. Alors que dit l'apôtre au sujet des Crétois à notre sujet ? Avant leur conversion, les Crétois, et nous avec eux donc, étaient stupides et rebelles. Alors d'une part, ils sont stupides, sans intelligence, sans cette sensibilité nécessaire pour comprendre les choses spirituelles, les choses d'en haut, comme l'on dit parfois. Ils n'ont pas cette ouverture d'esprit. Dans mon immeuble, il y a une personne âgée, un monsieur âgé, de santé fragile, avec lequel je m'entretiens de temps en temps. Il me dit, le temps presse en ce qui le concerne. Alors, il n'est pas du tout opposé à la foi. Pas du tout quelqu'un de virulent. Il m'écoute, mais je vois bien qu'il ne comprend pas, il n'accroche pas. Au-delà, il n'a aucune espèce d'intérêt pour ce que je peux dire. Que nous reste-t-il à part la prière ? Donc, sans intelligence. D'autre part, ils sont rebelles. Alors, il y a là l'idée du refus de croire. La foi étant d'une certaine manière, c'est un don d'abord et avant tout, mais d'une certaine manière une obéissance. Le Seigneur a placé devant eux et devant nous tout ce qui était nécessaire pour croire. Mais les hommes restent incrédules. Leur intelligence obscurcit leur esprit en révolte contre Dieu, font d'eux des hommes et des femmes égarés, perdus. Ils sont un peu ces hommes que l'apôtre décrit, cette fois-ci dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, de petits enfants ballottés, emportés par tous les vents de doctrine. Continuons. Esclaves, les Crétois, et nous avec eux, ont rejeté leur Créateur. Leur Seigneur, ils se sont rebellés contre lui pour gagner finalement leur indépendance, pour gagner leur liberté. Or, de façon assez paradoxale, c'est en se rebellant contre leur Créateur qu'ils sont devenus esclaves. Esclaves, nous dit-on, de leur passion et de leur plaisir. Ils sont asservis. Or, nous le savons, il ne peut y avoir de paix et de joie dans l'asservissement. Nous n'y trouvons que la souffrance. Alors, bien évidemment, on peut citer les asservissements les plus visibles, les plus connus, l'alcool, la pornographie. Mais il peut y avoir également l'argent, les biens matériels, l'asservissement que nous passons trop souvent sous silence, l'image que nous voulons donner de nous-mêmes aux autres, notre réputation, l'approbation des autres que nous recherchons désespérément. Tout cela nous maintient enfermés, captifs, esclaves. Ayant rejeté leur Créateur, esclaves de leur passion, les hommes sont livrés à leur révolte. Ils se haïssent et se jalousent les uns les autres. Les hommes ne songent qu'à se nuire. La malice et l'envie sont finalement devenus les moteurs de leur comportement en société. La conclusion est sans appel. Nous sommes odieux. La semeur, traduit par haïssable. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Odieux, haïssable. Les termes sont très durs. Mais voici la conclusion de tout ce premier développement. Odieux pour nos semblables, mais bien pire encore, odieux aux yeux de Dieu. Les Crétois et nous avec eux ne méritent que la colère divine. Si l'homme avait un seul droit à revendiquer auprès de son Créateur, ce serait celui de connaître sa juste colère et sa conséquence dramatique, la mort éternelle, brûlée dans les flammes de l'enfer éternellement. Je vous le disais, le tableau n'est pas beau, il est terrifiant, mais c'est ce que nous méritions. C'est ce que nous méritions. Je crois qu'il est bon de s'attarder pour s'assurer que nous le croyons bien. Est-ce que face à ce tableau projeté tout à l'heure, nous nous reconnaissons humblement, avec tristesse, avec amertume, ou bien continuons-nous d'y voir quelqu'un d'autre ? Non, cela ne peut être moi. Mon voisin, sûrement, mais moi, ce n'est pas possible. L'éducation que j'ai reçue, mon arrière-plan chrétien, ma fréquentation d'une église depuis de nombreuses années font que je ne puis être aussi mauvais que l'apôtre ne le prétend. On entend souvent « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je ne vis pas en concubinage, je ne fraude pas trop le fisc ». Quand je pense à tous ceux, ils sont si nombreux, qui font des choses tellement plus abominables que moi. Arrêtons de nous comparer aux autres, d'autant que c'est un exercice périlleux, où nous risquons fort, si nous sommes honnêtes, de trouver aussi bien meilleur que nous au niveau du comportement. Et plaçons-nous seuls face à la parole de Dieu. Acceptons-la. Laissons-la nous reprendre par elle. Ne croyons pas que Christ a dû moins souffrir pour nous que pour notre voisin. Au verset 3, la parole nous déclare qu'il n'y a rien de bon en nous, que nous sommes bien le rebut de l'humanité, comme le disait le philosophe Pascal, et que nous n'avons le droit que de nous attendre à la juste colère de Dieu sur nous. Croyons cette parole. Ce à quoi nous devons nous attendre, nous l'avons dit, c'est la juste colère de Dieu sur nous. Verset 4, mais, ce mais est tout le miracle de l'évangile, nous l'avons déjà souvent rappelé ici. Mais Dieu ne s'est pas satisfait de notre juste condamnation. Il n'a pas voulu en rester là. Il n'a pas voulu nous laisser dans notre misère. Et ce sera donc notre seconde partie, la réconciliation avec Dieu. Je vous propose de traiter cette partie en trois temps. Nous verrons tout d'abord en quoi consiste l'intervention de Dieu en notre faveur. Nous verrons ensuite les raisons de cette intervention et les grâces complémentaires qui y sont attachées. Mais commençons donc par la nature même de l'intervention de Dieu en notre faveur. En quoi consiste cette intervention ? Verset 5. Il nous a sauvés. Notre Dieu est le Dieu sauveur. Et il est à noter ici qu'il s'agit bien du Père. C'est Dieu le Père qui sauve au verset 5. Nous étions sous la colère de Dieu, promis au plus tragique des avenirs, mais Dieu est venu nous sauver, nous arracher à la mort, pour nous ramener à la vie, pour nous rendre à la vie, à sa vie. Mais comment Dieu nous sauve-t-il ? Le verset 3 déjà, mais le verset 6 également, et de façon encore plus explicite, ces deux versets nous mettent sur la voie. Le verset 3 parle de la bonté et de l'amour de Dieu qui ont été révélés. D'autres traductions emploient le verbe « apparaître » quand la bonté et l'amour de Dieu sont apparus. Il ne fait pas de doute ici que l'apôtre évoque bien l'incarnation de Dieu dans la personne du Fils. Dieu s'est révélé, Dieu est apparu aux hommes en Christ. Au verset 6, l'apôtre évoque cette fois-ci de façon explicite la personne du Christ et lui attribue, comme à Dieu le Père, le titre de Sauveur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, l'apôtre, tout en nous livrant la nature même de l'intervention de Dieu, à savoir le salut des hommes, nous livre également le moyen par lequel ce salut s'est accompli, par notre Sauveur, Jésus-Christ. En mourant à la croix à notre place, Jésus s'est chargé de tous nos péchés, stupidité, rébellion, esclavage, méchanceté, envie, jalousie, haine. Et il a accepté d'en subir la terrible conséquence à notre place, la séparation d'avec son Père. Il a accepté de vivre à notre place l'enfer. Mais nous ne serions pas complets en évoquant cette œuvre de salut si nous ne mentionnions pas la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. C'est la fin du verset 5. Nous étions stupides, nous l'avons dit, incapables de saisir Dieu, de saisir son œuvre de salut avec notre intelligence obscurcie. Et c'est Dieu, encore une fois, par la personne du Saint-Esprit, qui va libérer notre intelligence, qui va la renouveler pour que nous puissions enfin comprendre et accepter ce salut offert. Ainsi, nous le voyons, dans ce passage, ce sont bien les trois personnes de la divinité qui sont impliquées dans cette œuvre de salut. On met souvent en avant le Fils, nous avons raison de le faire, mais l'apôtre nous rappelle ici que c'est bien Dieu, Père, Fils, Esprit, qui sauve, que toute la gloire lui revienne. Alors nous avons évoqué la nature même de l'intervention de Dieu en notre faveur, c'est notre salut. Arrêtons-nous un instant sur les raisons qui ont poussé Dieu à nous sauver. Verset 4, puis verset 5, où l'apôtre enfonce le clou. Paul rappelle aux Crétois que si Dieu les a sauvés, c'est une pure grâce. La raison de l'intervention salutaire de Dieu en notre faveur se trouve en lui seul, et en aucun cas, de quelque manière que ce soit, en nous. Le geste salutaire de Dieu n'est pas la conséquence de notre repentance, de nos mérites, de nos belles œuvres, de nos efforts. Ce geste salutaire trouve sa raison en Dieu seul. Nous ne pouvions nous y attendre. Il était imprévisible ce geste salutaire, car totalement immérité. Et la bonté et l'amour de Dieu pour les hommes, pour les Crétois, éclatent d'autant plus dans l'œuvre de salut que l'humanité pécheresse ne méritait que sa colère. lire Romains 5, versets 7 et 8. « À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien ? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Pourquoi Dieu nous a-t-il aimés au point d'aller jusqu'au bout pour nous sauver ? La réponse est en lui seul. Nous ne méritions en rien cet amour et ce salut. Alors cela aussi, le croyons-nous vraiment ? Un commentateur a écrit que la nature humaine a horreur d'être redevable. On n'aime pas devoir les choses aux autres. Croyons-nous que Dieu nous a sauvés par pure grâce ou bien continuons-nous de croire que si Dieu nous a sauvés, c'est parce que nous y étions au moins un peu pour quelque chose. Mon voisin, lui, bon, il ne peut être sauvé qu'en vertu de la grâce exclusive de Dieu. Il était tellement mauvais. Mais moi, c'est un petit peu normal que Dieu m'ait sauvé. Si nous pensons ainsi, nous n'avons rien compris à l'évangile. Nous n'avons rien compris à la grâce que Dieu nous permette de comprendre et d'accepter sa grâce. Alors terminons par les grâces complémentaires qui sont attachées à l'œuvre de salut de notre Dieu. C'est le verset 7. Les Crétois, et nous avec eux donc, sont justifiés, héritiers et dans l'attente confiante de la vie éternelle. Justifiés tout d'abord, et justifiés de façon définitive. Nous sommes pardonnés, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Il nous faut humblement reconnaître que nous continuons de pécher. Mais à présent, nous sommes revêtus de la justice de Christ. Alors Trevor, il aime utiliser cette image. Quand Dieu le Père nous regarde, c'est Christ, son Fils et sa parfaite justice qu'il voit. D'où l'importance de nous réfugier toujours et encore en Christ, de nous cacher derrière lui comme le petit enfant qui se cache derrière sa maman. Ou selon une autre image, d'enfiler la justice de Christ comme un vêtement. En Christ, nous n'avons plus aucune crainte à avoir de la colère de Dieu le Père. Nous sommes parfaitement justes à ses yeux. Héritier ensuite, c'est-à-dire que nous sommes fils. Le croyant est fils de Dieu, il se sait à présent être le fils d'un père aimant et peut désormais s'attendre à hériter. Et pour l'héritage, on peut se dire que l'héritage que le prince Charles fera à la mort de sa maman, la reine d'Angleterre, eh bien sera un héritage bien pâlot au regard de l'héritage qui nous attend. Et cet héritage, nous en jouirons pleinement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous entrerons pleinement donc dans la vie éternelle que nous attendons avec assurance. Que de chemin parcouru ! Nous étions égarés, perdus, nous sommes sauvés. Nous étions rebelles, nous sommes à présent fils de Dieu. Nous étions promis à la mort éternelle, nous attendons avec assurance la vie éternelle. Quel retournement de situation ! Et non parce que notre péché était moins grave que celui du voisin. Non parce que nous avons participé d'une manière ou d'une autre à notre salut. Mais en vertu de la seule grâce de Dieu. Cette parole est certaine. Verset 8. Ce renversement de situation que vient de nous décrire l'apôtre est acquis, il est certain. Et c'est fondé sur ce renversement de situation qui n'est autre que la bonne nouvelle. C'est fondé sur l'évangile que nous devons être prêts à accomplir de belles œuvres en faveur de nos concitoyens, à faire pour eux ce qui est bon et utile. Comment en effet, après avoir tout reçu par pure grâce, regarder nos concitoyens de haut, avec un regard sévère, accusateur, un regard supérieur, méprisant peut-être. Qu'a-t-on fait de plus qu'eux pour être sauvés ? Rien. Qu'a-t-on fait de moins qu'eux ? Rien. En introduction, on s'était posé la question de savoir mais pourquoi et comment aimer nos concitoyens qui sont loin, c'est vrai, d'être toujours aimables. Dans ce passage, l'apôtre nous donne la réponse. C'est en s'appuyant sur l'Évangile. Et l'on réalise bien ici que c'est l'Évangile bien compris, bien accepté, que c'est la grâce bien comprise et bien acceptée qui va nous permettre de pratiquer des œuvres bonnes en faveur de nos semblables, même s'ils ne sont pas toujours aimables. Quand Dieu est intervenu en notre faveur, nous l'avons vu largement ce matin, nous non plus, nous n'avons rien d'aimable, nous n'avions rien d'aimable. Alors, mais en quoi, dans le passage médité ce matin, consistent ces belles œuvres mentionnées au verset 8 ? Alors, pour le savoir, il nous faut revenir au début de notre passage, au verset 1 et 2. Et ce sera là notre dernière partie. Nous l'avons déjà dit en introduction, si Paul insiste au chapitre 2 sur les bonnes œuvres que les croyants doivent pratiquer dans l'Église, au chapitre 3, il va mettre l'accent sur les bonnes œuvres que les croyants doivent pratiquer dans la société. Comment, en tant que croyant, devez-vous vous comporter en société ? Alors Trevor, dans son introduction à l'épître à Tite, c'était début juillet, nous avait montré le souci de l'apôtre pour les Crétois. Qu'ils puissent passer d'une foi reçue à une foi vécue. La foi que vous avez reçue, eh bien à présent, vivez-la en société. Ici, l'apôtre demande aux Crétois, en effet, de vivre leur foi dans le cadre de la cité, de la société. Alors nous verrons dans un premier temps les rapports que les croyants de Crète doivent entretenir avec leurs autorités. Et dans un second temps, nous nous arrêterons sur les rapports qu'ils doivent avoir avec leurs concitoyens. Alors l'apôtre rappelle tout d'abord aux chrétiens de Crète qu'ils doivent être soumis à leurs autorités. Si l'apôtre prend la peine de formuler une telle exhortation, c'est qu'elle était nécessaire. Alors d'après certains commentateurs, le Crétois était séditieux, c'est-à-dire qu'il était toujours prêt à protester et à tenter de se soustraire à l'autorité. L'apôtre Paul nous révèle ici que les Crétois sont les ancêtres des Français. Plus sérieusement, il est possible que certains Crétois, après donc le passage de l'apôtre dans l'île et puis après le passage d'autres prédicateurs, aient eu une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, elle a franchi de tout, et notamment des lois humaines et des lois qui me sont pénibles à respecter. Voilà ce que devaient penser certains d'entre eux. Et la porte de leur rappeler que si les chrétiens de Crète sont bien fils et héritiers de Dieu, s'ils sont bien citoyens du royaume de Dieu, ils n'en demeurent pas moins citoyens du royaume terrestre dans lequel ils vivent. Ils sont aussi citoyens de leur cité, de l'Empire, et doivent remplir leur devoir vis-à-vis de ces autorités humaines. La liberté dont nous jouissons en Christ est une liberté spirituelle vis-à-vis du péché, de la mort. L'appliquer dans nos relations avec les autorités terrestres témoigne d'une mauvaise compréhension de cette liberté. La juste attitude vis-à-vis des autorités humaines instituées par Dieu, c'est la soumission, l'apôtre va plus loin encore, l'obéissance même. Cette exhortation de l'apôtre témoigne de son souci de présenter à la société une image positive de l'Église. Cette lettre, cela aussi on l'a dit en introduction, a été écrite assez tard, autour des années 65, et les persécutions ont déjà commencé contre les chrétiens. Et l'apôtre a sans nul doute la volonté de jouer l'apaisement, sans créer de troubles à l'ordre public. Nous sommes déjà persécutés. Alors si en plus la foi de certains croyants s'oppose aux autorités en place, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les croyants et également contre-productif pour la promotion de l'Évangile. Alors, quelles applications pour nous ? Nous avons, on le sait, nous pouvons remercier le Seigneur, nous avons la grâce d'avoir de bonnes relations avec nos autorités locales. Continuons de prier pour elles, pour notre maire, M. Philippe Juvin, pour que le Seigneur lui donne sagesse, courage, souci de justice dans sa gestion de la ville. Prions également pour lui alors qu'il se trouve au Parlement européen, puisqu'il est député européen. Et puis facilitons les choses pour nos autorités, bien évidemment en respectant les règles édictées, quoique ce n'est pas forcément évident, mais plus encore, en essayant de nous insérer toujours mieux dans la vie de la ville. Cela peut être la participation à différents événements organisés par la commune, l'inscription dans des associations de la ville, et ceci avec pour but de créer du lien social et de se rendre utile aux autres. On parle aujourd'hui beaucoup d'incivilité, de la disparition du lien social. Je crois que le croyant a un rôle à jouer ici. Alors pour terminer, il est quand même à noter que l'apôtre, on l'a vu, nous invite à obéir aux autorités, mais dans le même temps, limite notre obéissance. En effet, il nous faut certes obéir aux autorités, mais dans le même temps, être prêt, nous dit l'apôtre, pour toute œuvre bonne. L'idée ici pourrait être l'obéissance aux autorités humaines dans la mesure où elles nous demandent de réaliser des œuvres bonnes, en tout cas des œuvres qui ne sont pas opposées à notre foi. Si nous avons à pratiquer des œuvres mauvaises, nous le savons, comme Pierre le déclare dans Acte 5, nous avons à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si cela nous coûte. Terminons. Les relations que les chrétiens de Crète doivent avoir avec leurs concitoyens. Alors, on commence avec une négation. Ne calomniez personne. Cette exhortation pourrait être aussi faite pour la vie au sein de l'Église. Abstenons-nous de dire du mal des autres. Cela est tellement facile, mais également tellement dévastateur. Abstenons-nous également de prêter une oreille attentive au mal que les autres peuvent dire de telle ou telle personne. Une négation donc et trois affirmations. Soyons pacifiques, recherchons la paix, même si cela implique parfois de lourds sacrifices, que nous puissions être connus dans notre quartier, dans notre immeuble, sur notre palier, pour des gens qui recherchent la paix. Soyons conciliants, que nous soyons également, en effet, connus par nos concitoyens pour des gens qui essaient toujours d'arranger les choses. Ne soyons pas arc-boutés sur nos droits. Enfin, témoignons de la douceur à nos semblables, au risque de passer pour des faibles. Qu'importe, dans un monde de plus en plus marqué par la compétitivité, la brutalité dans les rapports humains, nous pouvons, par notre douceur, interpeller. Dans ce verset, finalement, l'apôtre nous demande de refléter quelque chose de notre Dieu, lui qui a fait la paix avec nous, lui qui s'est approché de nous avec amour et douceur. Être pacifique donc, conciliant doux, et cela avec tous les hommes. C'est la fin du verset 1, du verset 2, pardon. Il ne s'agit pas de choisir ceux avec lesquels on aura décidé d'être bon. Et tout ceci pour apporter à nos concitoyens un témoignage vivant qui leur permettra d'être attirés par l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Je cite ici le verset 10 du chapitre précédent, mais dans la version du semeur. C'est cela que nous voulons, par notre comportement, permettre à ceux qui nous entourent de venir à Dieu et de faire la paix avec lui. Concluons. Nous étions haïssables, sous la juste colère de Dieu. Mais Dieu a pris l'initiative de nous sauver. Ceci est une pure grâce. À présent qu'il nous a sauvés, montrons à ceux qui nous entourent que nous sommes bel et bien sauvés, en leur témoignant au moins un peu ce que nous a témoigné notre Dieu d'amour et de paix. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir de qui nous étions avant qu'il nous rencontre. Qu'il nous aide à toujours mieux évaluer la grâce qu'il nous a faite en Christ. Qu'il nous aide enfin à refléter quelque chose de lui, à être pacifique, conciliant et doux, et cela pour sa seule gloire. Amen.